France Culture.
Cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Un coq dans son village, portrait d'un laboureur au grand siècle. Imaginez, un historien spécialiste de l'histoire rurale qui, en 1992, sous la direction du professeur Jean Jacquard, soutient une thèse sur les fermiers de l'Île-de-France, ascension d'un groupe social, 1400-1750. La famille de la cour qui est déjà présente. Imaginez que cet historien devienne un spécialiste de la paysannerie sous l'Ancien Régime avec toujours la famille de la cour. Une véritable dynastie. Imaginez enfin qu'au détour de recherches généalogiques, cet historien découvre qu'il a pour ancêtre Nicolas de la Cour, le patriarche, le parrain, le coq du village. Imaginez.
Voici le fait.
Travaillez. Prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
Maintenant, ces bougres-là veulent être payés. Tout le monde veut être payé de nos jours. On ne pense plus qu'à l'argent. De mon temps, pensez qu'à être honnête et à bien servir son seigneur, c'est mille fois plus commode.
J'ai soif aussi du grand visage des campagnes, qui ne ment pas comme celui des villes.
Mille diables, monsieur, est-ce que vous êtes fou? Sortez! Sortez tout de suite! Vous vous faites jeter l'or!
Le cours de l'histoire.
Jean-Marc Morisseau, bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite d'histoire moderne à l'Université de Caen, président de l'Association d'histoire des sociétés rurales et auteur de Nicolas de la Cour, Le pouvoir au village au cœur du XVIIe siècle, c'est publié chez Talendier. Comment l'avez-vous rencontré, ce Nicolas de la Cour ?
C'est une histoire rocambolesque. Effectivement, la première fois que je rencontre le nom de la Cour, c'est à travers le premier document historique que la Sorbonne m'est donné de consulter. C'est-à-dire en arrivant au cours de Pierre Goubert, et je trouve son assistant, qui s'appelait Marcel Lachiver, et qui donne à tous ses étudiants, dont je faisais partie, un rôle d'impôt, un rôle de taille. Ce rôle d'impôt portait sur une communauté rurale du Vexin français, actuellement le Val-d'Oise, qui s'appelait Livilliers. On était en 1707, à la fin du règne de Louis XIV, et donc à une période très difficile, c'est l'époque où Vauban écrit la dîme royale. Et dans ce rôle de taille, il y avait trois de la cour, et un certain Alexis Subtil, qui était le gendre de ces trois de la cour. Alors les trois de la cour, il y avait le receveur de la seigneurie, de Livilliers, il y avait le greffier des rôles de taille de l'ensemble de l'élection de Pontoise, et il y avait maître Robert de la Cour, le prêtre curé de la paroisse, qui avait donné 40 livres bénévolement, puisque les curés n'étaient pas évidemment assujettis à l'impôt. Alors j'avais bien travaillé, je pensais avoir rendu une très bonne copie, sauf que je m'étais pas du tout aperçu que ces deux la cour allaient me poursuivre bien après. En faisant une thèse ensuite, Marcel Lachiver lui-même et puis Jacques Dupaquier qui habitait le Vexin. Alors le Vexin, pour nos auditeurs, c'est la partie de l'Île-de-France au nord-ouest qui se trouve sur la rive droite de l'Oise, entre la Normandie et l'Île-de-France, et la Seine. Et dans le Vexin, il y avait des deux la cour, ils les connaissaient bien. Et ils me disent tous les deux, mais Morisseau, vous devriez ajouter aux familles que vous étudiez, les de la cour. Et je leur réponds, mais j'ai déjà 95 noms de famille que je suis depuis le 15e siècle jusqu'au 19e siècle. Ça fait 7 à 8 années que je suis sur cette thèse. Je voudrais la terminer dans 3 ans et pas rajouter encore au-delà de l'Oise des familles nouvelles. Donc, j'avais repoussé les de la cour. Simplement, ils voisinaient, ils cousinaient avec les familles que j'étudiais et dans les fermiers d'Île-de-France, dans la thèse et dans la version publiée ensuite, ils sont bien là. Et je pensais m'en tirer d'affaire avec eux. Sauf que, 30 ans après, à la faveur d'une recherche généalogique, je m'aperçois que je descends directement de ces deux la cour, et que, en plus, en remontant ma généalogie, l'ancêtre de ces deux la cour du Vexin habitait la plaine de France, le précaré dans lequel j'avais installé ma thèse. Je n'avais plus aucune excuse. Il fallait que j'étudie ce Nicolas de la Cour qui m'apparaît à Maffliers, petit village de Lille, près de l'Isle-Adam, à l'époque de Louis XIII et de Richelieu.
Qui est-il, ce Nicolas de la Cour ?
Alors, ce Nicolas de la Cour est un personnage un peu obscur au début. Il appartient à une famille installée depuis 3 générations, depuis François Ier, dans ce village de Maffliers. Sa mère, elle, provient de familles de bergers qui rayonnaient à travers les fermes de l'Île-de-France avec les troupeaux de bergers, les troupeaux de moutons qui appartenaient aux fermiers, bien entendu. Mais il a fait un très beau mariage avec une Anne Ferry qui descendait de famille dont on peut suivre l'histoire depuis le 15e siècle. L'ancêtre des Ferry, Signet, C'est une découverte que j'ai faite en travaillant sur mon personnage. L'ancêtre Jean Ferry, laboureur à Aisanville, près des Coins, dessinait un chariot avec des gerbes et signait J. Ferry dans des actes de la fin du XVe siècle, sous Charles VIII comme sous Louis XII. Et les descendants Ferry cousinaient avec de nombreuses familles de fermiers, dont celle que j'avais étudiée au tout début, avant même ma thèse, les Chartiers, du Plessis-Gassot et de Belleau en France, si bien que Nicolas de la Cour était l'un de leurs beaux-frères. Et donc Nicolas, par ce beau mariage, ensuite par l'héritage de ses propres parents, il était fils unique également, par également son avidité, son intelligence, a réussi à monter l'un après l'autre les degrés de la hiérarchie, de la gestion des seigneuries. Car vous avez sans doute vu hier... Écoutez, les honorables médiévistes qui étaient présents vous parlaient notamment des ministériaux et des agents d'affaires, des grandes abbayes carolingiennes. Il faut bien voir que Maffliers est dans l'orbite de Saint-Denis depuis Charles le Chauve, donc nous sommes dans le vieux pays capétien, et que ces intermédiaires-là, que l'on saisit fugitivement au Moyen-Âge, on peut véritablement les étudier avec beaucoup de précision à partir du XVIe siècle et surtout du XVIIe siècle. Et Nicolas de la Cour s'est insinué dans l'appareil seigneurial. D'abord, il a loué une partie des fermes, puis la totalité de la grande ferme seigneuriale, puis les droits seigneuriaux, notamment les dîmes et les champards qui appartenaient au seigneur, puis également les banalités qui appartenaient au seigneur. Nous sommes en pays de seigneurie banale, où la seigneurie exercée par le baron de Maffliers est extrêmement importante et puissante. Et il a réussi à devenir un intermédiaire obligé entre des seigneurs d'ailleurs très divisés familialement qui habitaient Paris, on y reviendra peut-être, et l'ensemble des paysans extrêmement diversifiés également de Maffliers. Donc de 1614 à 1635, il franchit toutes les marches, l'une après l'autre, jusqu'à ajouter également les droits sur les vins, par exemple, ce qui n'ajoutait pas beaucoup à sa popularité, certainement, à l'égard des villageois. Et il devient l'homme fort du village. Il réussit à obtenir les leviers de puissance essentiels qui se situent à l'intérieur de l'appareil seigneurial et pas du tout derrière les mandats électifs qui existaient déjà.
Avec ce personnage que vous nous présentez, ce village Maffliers, du temps de Nicolas de la Cour au début du XVIIe siècle, à quoi ça ressemble ce village ?
Alors ce village, il faut bien voir que c'est un village d'à peu près 120 habitants. J'ai réussi à en reconstituer le dénombrement, chef de famille par chef de famille, avec les signatures, les qualités socio-professionnelles, le nom des conjoints et des principaux enfants. Donc 120 feux qui fument et qui allument leur cheminée avec le bois des forêts qui sont tout à côté, légalement ou illégalement d'ailleurs, on y reviendra peut-être. Dans ces 120 familles, on a une vingtaine de laboureurs, c'est très important, qui sont en concurrence en général, sont très diversifiés. Il y a également une trentaine de journaliers et de manouvriers qui sont essentiellement au service de l'agriculture, et on a donc la moitié du village qui vit directement de la terre. Mais il y a également beaucoup de marchands, à commencer par les marchands fruitiers, puisque les fruits deviennent un article de plus en plus prisé par les Parisiens qui apprécient les confitures, mais également les fruits frais comme les prunes, les pommes et les poires. Et il y a une véritable spéculation sur les jardins fruitiers. Il y a aussi des marchands merciers qui assurent une sorte de galerie Lafayette, en quelque sorte au village, avec un étal d'aliments, mais également de vêtements et d'articles qui défient, je dirais, l'imagination. On n'imagine pas aujourd'hui qu'elle pouvait être à... On est à 25-26 kilomètres de Paris, il est vrai, mais l'éventail la consommation dans ce village-là, il y a les marchands bouchers, il y a bien d'autres types de marchands, il y a les cabaretiers qui jouent un rôle fondamental dans la question du pouvoir au village. Et puis, en dehors d'eux, il y a également tous les services administratifs qui dépendent de la seigneurie, qui dépendent de la paroisse. Et puis au sommet, évidemment, il y a la hiérarchie liée aux grands propriétaires le plus important étant le baron de Maffliers, qui n'est autre qu'un serviteur fidèle de Henri III puis d'Henri IV, et dont le patrimoine ensuite est dévolu à des grands parlementaires parisiens, et notamment à un prévôt des marchands de Paris, Massé le Boulanger, qui joue un rôle important sur lequel peut-être on reviendra.
Jean-Marc Morisseau, vous nous avez présenté vite fait le personnage Nicolas Delacour, le lieu aussi Maffliers, vous peut-être présenter la période, mais ça, c'est pas vous qui allez vous en charger, c'est Pierre Goubert.
Il y a deux points à souligner. Le premier, c'est qu'il y avait malgré tout dans le monde paysan des gens qui étaient plutôt favorisés et des régions qui étaient plus riches que d'autres. En second lieu, il y a ce fait que toutes les années et toutes les périodes ne se ressemblent pas, que le XVIIe siècle est un siècle assez malchanceux, où il y a, si vous voulez, plus d'épidémies. Il y a encore la peste tout de même, et plus de disettes prononcées qu'il y en aura au XVIIIe siècle. La dernière grande disette, c'est le grand hiver de 1709. Après, il y aura quelques ennuis, mais ça sera terminé. Donc ce XVIIe siècle, en quelque sorte, n'a pas eu de chance, mais tout de même, il faut nuancer, c'est la pauvreté, la gêne, la difficulté d'ensemble, avec en quelque sorte une grosse traîne de misère qui s'accuse par moments, et puis une partie supérieure de la classe paysanne, qui n'est certes pas malheureuse, quand on a 6 chevaux, 200 moutons, et qu'on exploite une centaine d'hectares, on ne peut pas être taxé de pauvreté.
L'historien Pierre Goubert sur France Culture en 1982. Pierre Goubert, grand nom de l'histoire de l'Ancien Régime, de l'histoire des mondes ruraux, de la démographie historique aussi, avec une présentation du XVIIe siècle, siècle plutôt difficile.
Tout à fait. Alors évidemment, j'ai plaisir à réentendre un de mes maîtres qui avait la parole fleurie et un langage châtié propre au grand siècle et qui faisait évidemment ressortir les caractéristiques fondamentales de cette société ambivalente entre l'immense richesse d'une poignée de la société et puis la médiocrité et la misère de la majorité. Nous sommes dans un siècle évidemment difficile. Il faut bien le voir, nous sommes pas au XVIIIe siècle. La consommation n'est pas la même. La vulnérabilité à l'égard de la nature, les dépendances à l'égard également de l'économie ne sont pas du tout les mêmes. Il faut garder le tempo de l'histoire. Nous sommes au XVIIe siècle, à l'époque des cardinaux ministres, à l'époque donc de Richelieu et de Mazarin. L'épaisse effectivement sévissent également autour de Maffliers et Nicolas de la Cour perd l'un de ses beaux-frères, Michel Galland, qui était laboureur à Franconville-la-Garenne, dans la vallée de Montmorency. Il perd sa belle-sœur, Ferry, puis le neveu, le petit Galland, en 1638. Ça ne le dérange pas trop, d'ailleurs, parce que avec les frères et sœurs subsistants, lui-même va récupérer 1000 livres de cette succession collatérale. Et en tout cas, il n'est pas touché par la peste. Anne Ferry, avec laquelle il est pendant 41 ans. Ils sont donc de longs des époux qui ont fêté leurs noces de fer. Il y a une longévité matrimoniale extraordinaire. Lui a donné 7 enfants qui ont survécu au-delà de 25 ans et qui se sont mariés. Et ces 7 enfants ont donné 58 petits-enfants à Nicolas de la Cour et Anne Ferry, et puis plus de 150 arrière-petits-enfants. Et aujourd'hui, la maison de la radio ne suffirait pas pour abriter les milliers de descendants de Nicolas de la Cour et d'Anne Ferry. Donc, ce sont les fondateurs d'un arbre de Jessé, en quelque sorte. Il faut bien voir que c'était un homme qui avait une grosse résistance. Il est mort octogénaire. 3 ont réussi ce pari à Maffliers quand même. Lui, le premier, il est né à la fin du règne d'Henri III, qui a été assassiné à Saint-Cloud, à peine 30 kilomètres de Maffliers. Il est mort alors que Louis XIV avait construit déjà le premier Versailles pour Louise de la Vallière et menait la guerre de Dévolution. Donc il a connu quand même Henri IV, il a connu Marie de Médicis, il a connu Concini, il a connu le règne de Louis XIII, Richelieu, Anne d'Autriche, Mazarin, le règne personnel de Louis XIV, de Concini à Colbert. Beaucoup d'eau a coulé et Nicolas de la Cour était toujours là, et surtout, pendant 50 ans, il a été gruyer, c'est-à-dire responsable des bois et forêts, et des eaux et forêts d'ailleurs, de Maffliers, et pendant 25 ans, principal receveur de la seigneurie de la baronnie de Maffliers. Et c'était le personnage principal au village. D'ailleurs, de toute façon, je ne dois pas l'appeler Nicolas de la Cour, mais je dois évidemment baisser mon chapeau et parler à maître Nicolas de la Cour. C'est ainsi que dans tous les documents au village, on le désigne.
Nicolas de la Cour, le pouvoir au village au cœur du XVIIe siècle. Jean-Marc Morisseau, c'est le titre de l'ouvrage, mais ce n'est pas une biographie de Nicolas de la Cour, ou pour le dire autrement, ce n'est pas seulement une biographie de Nicolas de la Cour, parce que c'est tout un univers que vous nous offrez par ce travail-là. C'est l'univers des campagnes du début du XVIIe siècle. Alors bien sûr, la France, c'est un grand territoire, et puis ces notions de frontières n'ont pas vraiment de sens quand on parle d'histoire rurale. C'est l'Île-de-France, c'est un monde très particulier, au plus près du pouvoir de Paris et puis de Versailles. Et vous avez ici travaillé pour construire mais quelque chose d'absolument gigantesque, parce qu'il a fallu aller fouiller au plus près des gens dans les archives les moins faciles d'accès. Les archives notariales.
Tout à fait. Et le pire étant les archives judiciaires, les registres d'audience, de justice qui sont écrits très rapidement avec des abréviations et une plume accélérée qui est très difficile souvent à déchiffrer. Les notaires, le notaire de Maffliers, Claude Cagnet, et maintenant, un de mes amis, je n'ignore rien de ce qu'il a fait. Il avait d'ailleurs une écriture relativement correcte, mais les notaires de Beaumont-sur-Oise, tout à côté, parce que j'ai dépouillé également les fonds notariés voisins, étaient d'une écriture épouvantable également. Hein. Il a fallu que je revienne à plusieurs reprises dessus. Alors pourquoi j'ai voulu faire cela? Parce que j'ai découvert d'abord sa signature. La signature de Nicolas de la Cour, qui est une signature à la Trois Mousquetaires, c'est une sorte, en quelque sorte, de botte de Nevers, avec une graphie monumentale qui s'étale pleinement sur une page. En général, Nicolas de la Cour, au plat pays, appose sa signature en haut, à gauche, le premier, ne passe devant lui que vénérable et discrète personne, messire Pierre de Vauconcin, le curé de la paroisse, docteur en théologie, et à Paris, évidemment, les grands propriétaires. Mais sinon, c'est lui qui est le premier là. Donc, sa signature, pour moi, a été une sorte de badge autoroutier qui me permettait d'aller à travers les minutes notariales et à travers les archives judiciaires, épouvantables comme je vous l'ai dit. Et j'ai retrouvé, pour ce personnage inconnu, dont il n'y avait pas d'acte de naissance, pas d'acte de décès, pas d'acte de mariage, une sorte de Pinago au XVIIe siècle, j'ai retrouvé 289 fois sa signature, qui a jalonné finalement une aventure au terme de laquelle j'ai voulu doter Nicolas de la Cour, 4 siècles après sa mort, d'un livre de raison. C'est-à-dire d'un récapitulatif, année après année, mois après mois, jour après jour, de tous les actes qui le concernaient directement ou indirectement. À savoir évidemment les actes familiaux, cela va de soi à partir de l'état civil, notamment, ou des actes notariés, mais également les actes économiques qui portaient sur l'exploitation du sol, sur l'évolution de la grande culture, mais aussi des actes concernant la propriété, les partages, les ventes, le crédit, les hypothèques, et enfin les documents qui concernaient le contexte général, politique, social, culturel et économique de la région. Donc je l'ai fait d'une part pour toute sa vie, mais également en amont depuis le XVe siècle, en aval jusqu'au XIXe siècle. Et dans cette immense entreprise, c'est une base de données en fait, hein, mais sous forme de livre de raison, dans cette base de données, j'ai centré mon propos sur 7 années que j'ai dépouillées intégralement. C'est-à-dire tout ce que les notaires de Maffliers, tout ce que les juges de Maffliers avaient livré d'actes, donc c'était des milliers de documents, de 1637 à 1643, donc à la fin du règne de Louis XIII, je l'ai dépouillé. Parce que j'ai voulu, derrière Nicolas de la Cour, ouvrir la chape de plomb qui cachait les voix de toute une population rurale. D'abord les voix des 120 familles de Maffliers, mais également des quelques centaines de familles voisines qui travaillaient dans le cadre de la baronnie de Maffliers, afin de voir d'une part ces éclats de voix, mais également ces accords, ces dissonances et toutes ces relations sociales qui existaient, afin que la stratigraphie sociale des campagnes ne soit pas réduite à des exemples analytiques, ne soit pas limitée a des points de vue impressionnistes, mais puisse s'immerger dans une société qui parle, qui discute, qui joue, qui se combat, qui se réconcilie également. Et c'était important pour moi de dessiner finalement, bref, le scénario d'un film, un véritable script qui permette en quelque sorte aux acteurs de ressusciter et avec eux de retrouver ce que j'avais jamais réussi à faire jusqu'à présent, les traits de caractère, les comportements, les clans également, ces facteurs en quelque sorte qui expliquent les itinéraires, les choix des uns et des autres dans une société beaucoup plus divisée, beaucoup plus foisonnante de vie, d'une vitalité collective qu'on n'imaginait pas, qui était celle finalement d'un village serré, enserré dans les filets que Nicolas Delacour avait établi. À cet égard, Maffliers, ce n'est pas la montagne magique de Thomas Mann, avec en quelque sorte des personnages retenus dans un sanatorium des Alpes suisses pendant 7 ans, mais c'est la campagne magique. La campagne magique derrière les raies d'un autocrate avisé qui enserre pendant plus de 50 ans durant les relations sociales au village que l'on voit se décrypter les unes par rapport aux autres, avec évidemment la position individuelle, économique et culturelle de chacun.
Ce qui est magique, mais je dis magique, c'est pour couvrir un travail gigantesque, c'est que vous les avez entendues, ces voix.
Oui, puisque les notaires et les juges, il faut bien voir que le notaire, il instrumente tous les jours de la semaine, quasiment. Que le juge, il vient une fois tous les 15 jours. Quand le juge vient, il y a 20 à 30 familles, entendez, le quart ou le tiers de la population du village qui comparaît. Quand ces acteurs comparaissent, il y a les enfants. Et les femmes également, pas uniquement les adultes. Et donc, il y a les propos que les uns et les autres se sont livrés, souvent des propos désobligeants. Alors, on voit évidemment les scènes de violence et les injures qui apparaissent et qui sont reproduites comme pièces à conviction. Mais à l'inverse, il y a les réconciliations, car toute cette population-là arrive après à réparer les injures qu'elle a proférées finalement les uns contre les autres et il y a le sentiment de l'honneur qui intervient au titre de la réputation de ces paysans. Donc on a à la fois l'ordre et le désordre, la police des corps et la police des âmes. On a tous ces éléments qui interfèrent en même temps et je n'ai jamais vu à ce point le nombre de réconciliations et de réparations d'honneur intervenir, puisque j'aurais dû en voir une quinzaine en l'espace de 2 ou 3 années à la fin du règne de Louis XIII autour de 1640.
Nous sommes dans un monde de plaideurs.
Voici le fait. Depuis 15 ou 20 ans en ça, au travers d'un mien prêt, certain nanon passa. Si vautra, non sans faire un notable dommage, dont je formais ma plainte au juge du village. Je fais saisir l'anon, un expert nommé, à 2 bottes de foin le dégât estimé. Enfin, au bout d'un an, sentence par laquelle nous sommes renvoyés hors de cour. J'en appelle. Pendant qu'à l'audience on poursuit un arrêt, remarquez bien ceci, madame, s'il vous plaît, notre ami Droulichon, qui n'est pas une bête, obtient pour quelque argent un arrêt sur requête. Et je gagne ma cause. À cela, que fait-on? Mon chicaneur s'oppose à l'exécution. Autre incident. Tandis qu'au procès, on travaille, ma partie en mon pré laisse aller sa volaille. Ordonnée qu'il sera fait rapport à la cour du foin que peut manger une poule en un jour. Le tout joint au procès, enfin, et toute chose demeurant en état, on appointe la cause le 5e ou 6e avril 56. Mais vous, comme je vois, vous plaidez.
Louis de Funès qui lit les plaideurs de Jean Racine. Avec Jean Racine, nous sommes un peu après l'existence de Nicolas Delacour. Nous sommes en 1668.
Ah non, on est la dernière année de vie.
Voilà, c'est ça,
de
c'est
Nicolas Delacour.
Voilà, exactement. On est c'est la dernière année de son existence.
Il faut bien voir. Nicolas Delacour aurait assuré en quelque sorte un prototype à Chicano. C'est même, il aurait, Il aurait donné à Racine sans doute des éléments complémentaires, à mon avis. Parce que l'une des clés de la réussite de notre personnage, c'est d'être un fin connaisseur du droit et d'être toujours présent en justice, bien entendu, ou chez le notaire, pour pouvoir exciper de tel et tel élément de procédure qui va à son avantage. Il tenait une sorte de fichier général sur toute la population du village. Il avait accumulé des actes de constitution de rente, des prêts hypothécaires qu'il donnait évidemment aux petits et aux médiocres, moyennant évidemment quelquefois une hypothèque sur des jardins fruitiers, sur des parcelles de terre, sur une maison qu'il pouvait relouer d'ailleurs à ses débiteurs s'ils acceptaient, s'ils réussissaient à lui accorder un loyer ou qu'il revendait. Sinon, ou qu'il relouait à d'autres personnages. Il accumulait tous les arriérés également d'impôts. Il était collecteur d'impôts, mais surtout, il a été receveur seigneurial. Et à ce titre, il faut bien voir que les charrettes de Nicolas de la Cour passaient au mois de juillet, au mois d'août, en bout de champ, pour aller récolter notamment le champard. Or, ce champard, il était à trois taux différents, assez lourds, 10%, 12% et 16%, c'est des taux énormes. Par parenthèse, à l'égard de l'émission d'hier sur le Moyen-Âge, la cartographie des parcelles qui sont champartées, amafliées sous Nicolas de la Cour, permet de voir les îlots de colonisation du XIe et du XIIe siècle. Il faut bien voir qu'il y a un va-et-vient important et que l'appareil seigneurial qu'on a vu se dessiner au Moyen-Âge, il est en place, effectivement, au XVIIe siècle, et qu'un gestionnaire comme Nicolas de la Cour l'exerce avec talent, et avec également beaucoup d'opiniâtreté. Et avec ses fils et ses serviteurs, il vérifie donc que les gerbes soient bien là, pour le champard, ou pour la dîme.
Le champard, c'est ce que l'on doit au seigneur propriétaire de la terre, la dîme, ça c'est plutôt du côté de l'église.
Oui, mais le seigneur avait confisqué la dîme, puisqu'il avait été, en principe, habilité à reconstruire l'église du village au XVIe siècle. Si bien que nous sommes dans un pays de seigneurie forte, j'ai cru lire que la seigneurie en Île-de-France, y compris parmi mes maîtres d'ailleurs, était relativement faible. Or, je dois avouer que ici, en voyant Nicolas de la Cour exploiter les ressorts de la seigneurie, elle est extrêmement forte, à tout point de vue. Que ce soit les banalités, les impôts à partir du boulin, évidemment, mais également les lots et ventes. Et Nicolas de la Cour est un expert des lots et ventes. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'arrive pas à payer, c'est des droits de mutation qu'on payait quand on achetait de la terre dans la seigneurie. Quelqu'un n'arrive pas à payer tout, oh, il laisse tomber pendant quelques semaines, quelques mois, puis après il le fait signer une obligation et puis ensuite une reconnaissance de dette, etc. Et puis quelques années après, eh bien cet expert du recouvrement seigneurial fait main basse sur des jardins, sur des terrains, sur des maisons également. Et pour le champard, il vérifie vraiment que les gerbes soient toutes là, qu'elles soient de la bonne nature. Parce que le champard, c'est un prélèvement en nature, c'est une partie de la récolte. La dîme, c'est pareil. Or, le seigneur, il a à la fois la dîme et le champard. Et donc, Nicolas de la Cour, il perçoit les deux. Alors, une demi-dîme, certes, parce que c'est impossible, avec un champard de 10 à 16%, d'ajouter une même quantité de dîme. La dîme est à 6%. Mais voyez quand même l'importance du prélèvement brut, quand il faut réserver peut-être 15 à 20% du produit pour la semence, et quand il faut payer le propriétaire. Donc les charrettes de Nicolas de la Cour étaient redoutables quand elles arrivaient en bout du champ. Et lui n'était pas évidemment extrêmement estimé, mais il savait tout. Il avait confisqué d'ailleurs les cahiers de redevances des seigneurs précédents pour pouvoir bien s'y reconnaître à travers un parcellaire de plus d'un millier de parcelles qui payait la dîme et de 250 à 300 qui payaient le champard à trois taux différents. Donc, il connaissait son village sur le bout des doigts. Et donc, quiconque était en retard était évidemment assigné en justice. Et donc, tous les éléments de la procédure qu'évoque Racine avec Chicano, Nicolas de la Cour en était l'expert et les avait pratiqués régulièrement. Et le plus étonnant, c'est qu'à la fin de sa vie, après sa mort, on a retrouvé une collection de papiers, de titres, absolument inouï. C'est-à-dire qu'il avait réussi à séquestrer pendant ses 50 ans la plupart des documents importants de la seigneurie, mais également de la paroisse, de la communauté rurale, l'ensemble des acquisitions qu'il avait faites, évidemment les documents familiaux et tous les prêts qui étaient les siens. Si bien que quand le notaire a ouvert le sac d'un setier, 120 kilos, où avait été remisé pendant plusieurs mois l'ensemble de ses titres et papiers, il a mis des semaines et des semaines à inventorier. En principe, on prend l'alphabet pour inventorier de A à Z, sauf quelques lettres qui sont réunies comme le I et le J, par exemple. Et puis, si vraiment on a beaucoup de documents, on double l'alphabet. Donc, on fait de A à Z, puis de AA à ZZ. Mais lui, il a fallu aller jusqu'à la lettre BBBBBB, c'est-à-dire prendre 7 fois l'alphabet pour retrouver 152 cotes qui rassemblait 400 liasses, et encore, on n'avait pas tout terminé.
Mais il connaît mieux le territoire que le seigneur lui-même.
Bien sûr. Et à cet égard, Nicolas de la Cour est l'artisan d'une réaction seigneuriale à l'époque de Richelieu, dont on a un peu trop rapidement considéré qu'elle n'était que le préalable de la Révolution française. Car quand on voit la manière avec laquelle il s'est administré les revenus seigneuriaux pendant des décennies, les titres qu'il s'est gardés, l'ardeur procédurière qui est la sienne, c'est non seulement le prototype, en quelque sorte, du Chicano, mais c'est le prototype du Rigaud de Balzac également, qui, au XIXe siècle, montre toute cette puissance économique de ces usuriers de campagne qui sont à l'action. Il a, en quelque sorte, toutes les armes à son action. Simplement, ce qui est étonnant, c'est que la réaction féodale ou seigneuriale, elle est faite dans le dos des seigneurs, par leurs propres agents sur place.
Honoré de Balzac.
Alors âgé de 67 ans, Rigoux n'avait pas fait une seule maladie en 30 ans, et rien ne paraissait devoir atteindre cette santé vraiment insolente. Grand, sec, les yeux bordés d'un cercle brun, les paupières presque noires, quand le matin il laissait voir son cou ridé, rouge et grenu, vous l'eussiez d'autant mieux comparé à un condor que son nez très long, pincé du bout, aidait encore à cette ressemblance par une coloration sanguinolente. Sa tête quasi chauve eût effrayé les connaisseurs par un occiput en dos d'âne, indice d'une volonté despotique.
Honoré de Balzac, Les Paysans 1844, avec une présentation d'un personnage qui pourrait nous faire penser beaucoup à Nicolas de la Cour.
Alors oui, alors on ne savait pas s'il avait un coup de condor. En revanche, il est sûr que c'était un personnage extrêmement avide, opiniâtre, qui portait son chapeau, qui portait une épée, parce que la société est quand même très violente et très dangereuse. On a souvent des armes, les poignards, les épées, les pistolets servent régulièrement. On fait attention quand même, on blesse les gens, on les tue pas, sauf exception. Mais Nicolas de la Cour, il avait d'ailleurs beaucoup d'ennemis, il avait intérêt à se protéger. Il montait à cheval, il les montait à cheval jusqu'à la veille de sa mort, à 80 ans. Il allait régulièrement à Paris, mais il allait aussi à Pontoise, il allait à Senlis, ce qu'étaient les tribunaux dont dépendait Maffliers. Et je pense qu'il a passé plus de temps à cheval en dehors de son village que dans son village lui-même, où son emploi du temps était quand même extrêmement serré également. Et ce personnage a été un chef de tribu, un chef de clan, de toute façon, qui de main de maître a été à l'origine d'une véritable dynastie qui faisait la loi sur Maffliers et qui démontait les concurrents. Et des concurrents, il y en avait, soit des petits moyens laboureurs qui remontaient à Charles VII ou à Louis XI, et qui vivotaient encore avec 20 ou 25 hectares encore à l'époque de Louis XIII, soit des concurrents, parce que, sans trop noircir l'image de Nicolas de la Cour, il avait à côté de lui d'autres laboureurs qui étaient également de fins limiers, qui étaient extrêmement âpres aux gains, comme par exemple le Martin Lefort, qui était procureur syndic, ou Nicolas Buquet. Ces deux personnages ne sont pas beaucoup plus sympathiques que Nicolas de la Cour. Eux aussi, ils prêtent, eux aussi, ils raflent des jardins, eux aussi, ils exploitent la misère du monde. Simplement, il y a une concurrence acharnée entre trois ou quatre familles, il y a des clans qui transparaissent jusque chez le notaire et à l'égard du fisc. Par exemple, scène étonnante, vers 1640, chez le notaire Cagnet, arrivent les deux assayeurs collecteurs de la taille. l'un qui est Michel Lefort, qui est donc le procureur fiscal, j'ai dit Martin, c'est Michel en fait, il a voulu abaisser la cote de taille de son cousin et de son neveu, et la sienne en même temps. Il s'est accoquiné avec l'autre assayeur collecteur. Évidemment, la taille, il faut bien voir que si on abaisse la cote d'un contribuable, on remonte évidemment celle des autres. Donc il a voulu avantager son parti. Et devant le notaire, l'autre assayeur lui dit « Je suis d'accord, je ne dirai rien. Simplement, si jamais cette affaire s'évente et que on vient à demander une action en justice, eh bien c'est toi qui paieras tous les frais, etc. » Et le notaire enregistre tout. C'est tout à fait stupéfiant. Une fraude fiscale organisée chez le notaire. On a l'impression que l'historien a posé ses micros chez le notaire de Maffliers en 1640. Il est vrai que chez le notaire, on voit beaucoup de choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui, qui montrent une société avec ses animaux notamment, qui est en perpétuelle évolution, transformation, une très grande vitalité et surtout en conflit permanent.
Et c'est ça, hein, c'est un monde violent, un monde de conflits, un monde de pinailleurs aussi, et puis un monde dans lequel nous trouvons Nicolas de la Cour, le pouvoir au village au cœur du XVIIe siècle. Nicolas de la Cour, c'est le patriarche, un peu le parrain quand même, hein, et le coq du village.
Papa laboureur ne sait qu'une chanson, plus vieille que sa maison, aussi jeune que son cœur, qu'il chante en labourant au fils de son garçon, qu'est un malin petit drôle. Et quand le dernier sillon a fumé sous les bœufs dans le grand champ près du petit bois, grand-papa laboureur est le fils de son garçon, entonne à qui mieux sur le chemin de la maison. Quand mon grand-papa mourra, j'aurai sa vieille culotte. Quand mon grand-papa mourra, j'aurai sa culotte de drap. Oui, j'aurai sa veste et sa casquette. Oui, j'aurai sa dépouille complète. Quand mon grand-papa mourra, j'aurai sa culotte. Quand mon grand-papa mourra, j'aurai sa culotte de drap. Et quand il va au pré cueillir des branches de saule, le malin petit drôle rêve aux boutons dorés, avec dessiné dessus des têtes de sangliers. Rêve à la veste en velours de grand-père laboureur, quand il pose des lacets dans le petit bois près du grand champ. Et le fils du garçon de grand-père laboureur entonne pour lui tout seul sur le chemin de la maison. Pan, 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 quand mon grand-papa mourra, j'aurai sa vieille culotte. Quand mon grand-papa mourra, j'aurai sa culotte de drap. Oui, j'aurai sa veste et sa casquette. Oui, j'aurai sa dépouille complète. Quand mon grand-papa mourra, j'aurai sa culotte. Quand mon grand-papa mourra, j'aurai sa culotte de drap. Grand-papa laboureur est mort au petit matin dans la remise au foin. Alors le père du petit, avec les oripeaux du grand-père mort trop tôt, fit un épouvantail pour faire peur aux corbeaux qui déterrent les semailles dans le grand champ près du petit bois. Et sa besogne achevée, sans savoir ce qu'il a fait, il s'est mis à siffler sur le chemin de la maison. Tu pourrais pas siffler autre chose, dis. Pas.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Catherine Sauvage, grand-papa laboureur dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique François Saint-Jour. Et aujourd'hui, Jean-Marc Morisseau, vous nous présentez Nicolas Delacour et de manière plus large, cette société du début du XVIIe siècle, cette société paysanne, je dis le début, en fait, c'est cette grande partie du XVIIe siècle, sachant que ces sociétés paysannes sont en mouvement constant. Et c'est absolument fascinant de voir comment tout cela se construit. Je propose, après avoir écouté Catherine Sauvage, malgré tout, de donner une place aux femmes dans ces sociétés paysannes. Vous nous avez parlé d'Anne, Anne Ferry, l'épouse de Nicolas Delacour. Ces femmes sont très présentes dans ces sociétés paysannes.
Alors, elles sont très présentes. Il faut voir que l'historien qui veut les chercher, les trouve dans les archives. Évidemment, s'il ne veut pas les chercher, il ne les trouvera pas. Parce qu'elles n'apparaissent pas au premier plan. On dira c'est la femme de Nicolas de la Cour, c'est la fille de Nicolas de la Cour, que c'est tel manouvrier ou tel tisserand qui va aller chercher du bois avec sa femme et ses enfants. Mais on les voit très présentes en justice. D'abord, au niveau des laboureurs, il y a une laboureuse qui est une veuve qui a charge d'exploitation avec son neveu, Perrette Perrault, qui donne du fil à retordre d'ailleurs à Nicolas de la Cour, parce qu'elle ne paye pas toujours ses lots et ventes et ses droits seigneuriaux. Il y a également une autre veuve, Catherine Brunard, qui est, elle, la belle-mère de l'un des fils de Nicolas de la Cour, Antoine, qui joue un rôle important. Elle a également prêté de l'argent à des personnes du village, et elle prend des gages, et on voit tous ces gages, c'est-à-dire les robes, la vaisselle, les meubles, qui sont toujours remisés au cas où le débiteur ne réglerait pas sa dette. Et puis, il y a deux types de femmes qui m'intéressent beaucoup. Les femmes des pauvres, les femmes qui vont aller chercher du gland en forêt avec leurs enfants, ou qui vont aller chercher du bois vif ou mort pour faire fumer leur cheminée. Et il y a, à cet égard, à Maffliers, ce que Balzac appelait des feux de veuves, c'est-à-dire des feux qui sont misérables, dont les cheminées finalement emmagasinent que peu de bois, et beaucoup de bois vert en particulier, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'avoir des grosses bûches, évidemment, qui permettent d'avoir une cheminée ardente. Il y en a. Et dans les procès-verbaux que les sergents de la seigneurie effectuent dans les forêts de Maffliers pour le compte de Nicolas de la Cour, il y a beaucoup de femmes. Et puis il y a la femme de Nicolas de la Cour. Alors là, j'aurais aimé consacrer un chapitre entier à cette Anne Ferry, épousée en 1610, morte en 1653. J'ai réussi à lui accorder 12 pages. Et pourtant, j'y ai passé beaucoup de temps. Mais ces 12 pages me paraissent évidemment très importantes. Car cette Anne Ferry, d'abord, elle ouvre à Nicolas de la Cour des réseaux familiaux, en le dotant immédiatement de 4 beaux-frères, les Chartiers, les Galerans, les Maignans, qui jouent un rôle très important dans les fermes depuis très longtemps, à 30 km à la ronde. Donc des réseaux d'alliances, de crédit, etc. Mais aussi, elle est gestionnaire et elle aide son mari. Et là, quelle n'a pas été ma bonne surprise que de découvrir, dans les rôles de justice en particulier, qu'elle allait apporter de l'étoffe, de l'étoupe à des tisserands pour assurer le tissage avec l'une de ses filles, que de voir qu'elle avait des démêlés avec le berger pour compter les toisons qui avaient été effectivement effectuées après la tonte des moutons, qu'elle allait au marché de Pontoise également. Donc toutes ces petits travaux et ces menues opérations commerciales qui sont quand même importantes, on les voit à travers la justice. Et puis il y a plus gros, il y a le fait que pour les engagements principaux d'un fermier, c'est-à-dire les baux à ferme, les contrats de fermage auprès des grands propriétaires parisiens, Anne de la Cour est toujours là. Soit elle est directement avec son mari, soit elle revient à Paris plusieurs mois après pour contresigner les actes. Car les propriétaires parisiens entendent bien faire peser sur le patrimoine d'Anne Ferry également une hypothèque, hein, pour asseoir la solidité des contrats. Donc, elle joue un rôle important. Et peut-être ma plus belle surprise a été de voir un jour dans le trousseau de mariage de l'un des fils de Nicolas et d'Anne, Nicolas de la Cour le Jeune, la description de l'ensemble des devantiers, des tabliers, du linge, du mobilier qui était accordé en 1642, donc on a la fin du règne de Louis XIII toujours, et en tête, d'une manière manuscrite par le premier notaire, indiquant que Anne de la Cour avait présidé avec une autre de ses belles-filles, et puis la mère évidemment de la mariée, à l'estimation de l'ensemble de ce trousseau. Ce document aurait dû disparaître car les notaires ne conservent qu'une version définitive des contrats, mais il y avait ici la liste d'origine où Anne de la Cour était en tête. Alors c'est rare, parce que souvent, elle est dans l'ombre du mari. Et enfin, il faut bien voir qu'elle a joué un rôle temporisateur extrêmement important à l'égard de ce personnage qui est comme Rigoux, de Balzac, hein, qui est Aproguin et qui a été un autocrate au sein de sa famille. Il fallait faire régner un peu la paix au ménage entre les générations, avec les enfants, etc. Et je ne peux que saluer rétrospectivement la place de cette femme, de toute façon, de même que bien d'autres. Hein. Je pense, pour terminer sur les femmes, à la femme d'une journalière, à la femme d'un manouvrier, qui s'appelait Denise de Moiselet. Alors, quand on parle de manouvriers, c'est les gens qui n'ont que leurs bras, leurs mains pour travailler, qui sont des ouvriers agricoles, au service des fermiers. Elle, Denise de Moiselet, elle habitait dans une toute petite maison de Maffliers, avec ses deux fils, d'ailleurs, tout à côté. Et quand elle meurt, quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'au château, elle avait remisé ses atours, comme on disait, ses habits de mariage, et puis d'autres beaux habits, avec des robes, des tabliers, avec un peu de velours, qui ont attiré l'intérêt des coquettes du village, y compris les femmes de laboureurs, qui, après sa mort, ont racheté ses habits. Alors, ses habits avaient été mis au château, parce que le château, et je reviens à l'émission d'hier également, sert de refuge de tous les meubles en cas de péril. C'est plus l'église, hein. Depuis les guerres de religion, l'église n'est plus en quelque sorte un sanctuaire véritable. C'est le château de Maffliers qui reçoit pendant la guerre de 30 ans, pendant la Fronde également, les biens meubles et les coffres qui protègent une partie des richesses du village.
C'est comme un coffre-fort, c'est une sorte de banque. D'ailleurs, Nicolas de la Cour et son épouse, Anne Ferry, ne vivent pas seuls, on l'imagine bien, la famille est nombreuse. Et puis, autour de la famille, il y a la domesticité, puis tous les ouvriers, les ouvrières agricoles. Vous avez une idée, Jean-Marc Morisseau, du lieu où ils habitaient? Est-ce qu'on peut se représenter un peu à quoi ressemblait la ferme?
Oui, j'ai pu reconstituer le village et même le cartographier. Par une étude régressive depuis le XVIIIe siècle, on a un plan terrier et puis avec les documents notariés. Pour faire simple, Nicolas de la Cour et Anne Ferry emménagent en 1638 dans une maison qui est au carrefour principal du village, qu'on appelle le carrefour du Paty, qu'ils agrandissent d'ailleurs peu à peu et qui est un emplacement stratégique puisqu'elle donne d'un côté sur le château, d'un autre côté avec une rue vers l'église, d'un troisième côté vers la ferme seigneuriale qu'ils ont gérée pendant très longtemps. Et cette belle construction, remaniée par leur petit-fils à l'époque de Louis XIV, existe toujours et constitue un véritable décor de film. Hein, de toute façon, de même que les maisons du village, parce que Maffliers a conservé la quasi-intégralité de ses maisons du XVIIe et XVIIIe siècle. Donc on voudrait jouer aujourd'hui une pièce de théâtre ou monter un film sur un village au XVIIe siècle, que le décor serait tout trouvé.
Et puis ils étaient nombreux hein, dans ces fermes-là, avec tous ces éléments que nous évoquons ici, Jean-Marc Morisseau, on l'entend bien, l'histoire d'un village ne se résume pas aux personnages importants. Alors Nicolas de la Cour, pourquoi pas, le coq du village, et puis on y ajoute le seigneur, enfin, le baron, la baronne, et puis on y ajoute monsieur le curé. Mais non, vous avez été beaucoup plus loin.
Bien sûr, alors même, restons du côté de monsieur le curé. Il faut bien voir que l'église, au XVIIe siècle, joue un rôle très important de pacification des mœurs, bien entendu. Et le curé et surtout son vicaire jouent le rôle d'artisan de paix. Mais l'église est également le théâtre d'une sociabilité festive de la part du village qui se réunit notamment le jeudi saint pour faire un grand banquet aux grandes dames de l'évêque de Beauvais, l'évêque Potier, qui est un évêque janséniste. Et cette église, elle est divisée. Il y a en effet deux types de conduite religieuse au XVIIe siècle. Une conduite traditionnelle, qui respecte un peu les rythmes anciens, qui est liée au Seigneur. On l'a vu encore hier. Le Seigneur a un chapelain. Et puis l'église tridentine qui veut réformer les mœurs après le concile de Trente. Or, il faut bien voir qu'à Maffliers, les cloches sonnent toujours deux fois. Parce que le chapelain du Seigneur a pris la mauvaise habitude, ou la bonne habitude, de faire sonner sa messe en même temps que la messe du village. Alors ça crée véritablement une anarchie, puisque on a la messe à la carte, en quelque sorte, et les libertins, comme dit le curé du village, vont à la messe du chapelain, alors que les bons pratiquants vont à la messe dans l'église. Et quand le chapelain vient dans l'église, il se met pas toujours à la même place, ils portent pas toujours tous les habits ecclésiastiques, etc. Ça établit du désordre. Et enfin, dans cette époque de ferveur religieuse, eh bien, on va à la confession à la carte, également. Puisqu'il y a des confesseurs qui sont les pénitents de Franconville qui viennent, qui sont très libéraux, eux, et qu'apprécient beaucoup les gens de Maffliers, comme d'autres confesseurs de la région, au détriment du curé et de son vicaire. Donc, il faut bien voir que la société est très animée, parce que les ferments de la réforme catholique existent, à Maffliers même. Grande était ma surprise de découvrir dans un petit prieuré Jean Acari, qui était le prieur, qui est artisan de paix lui également, c'est le fils de Madame Acari qui a introduit les le Carmel en France. On a donc un lien avec toutes les grandes figures de la réforme catholique, et le curé comme Acari sont liés à Bérulle, à Bourdoise, à Vincent de Paul, etc.
Oui, parce que dans cette histoire-là, bien sûr, nous sommes dans un village, Maffliers, mais nous sommes en lien avec une histoire beaucoup plus large. Vous venez d'évoquer ces grandes transformations religieuses. On pourrait parler d'une autre histoire qui, elle, est plus politique. C'est la guerre de 30 ans. Enfin, ce sont les révoltes paysannes, ce sont les nu-pieds en Normandie, ce sont les croquants. Et puis, en 1668, octogénaire, eh bien, Nicolas de la Cour faiblit un peu. La mort est proche.
La Fontaine.
Travaillez. Prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loutre. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor.
Jean de La Fontaine, le laboureur et ses enfants, édité pour la première fois en 1668, l'année de la mort de Nicolas de la Cour. C'est pas possible, La Fontaine évoquait Nicolas de la Cour. C'est beau cet héritage-là, c'est ça aussi. Hein. C'est qu'il y a une dynastie, il y a une grande famille, il y a toute cette histoire de transmission par le mariage, on l'a dit, avec Anne Ferry, et puis vers les enfants.
Tout à fait. Alors les enfants ont été dotés d'ailleurs de manière très inégale. Le temps nous interdit de développer tout cela, mais Nicolas de la Cour s'est comporté véritablement comme un patriarche méridional. On pense à l'affaire Gaston Dominici, on pense à ces grands laboureurs et ménagers du Midi choisissent leurs héritiers. Il donne 2200 livres à ses deux premiers fils, il donne 5500 livres à sa première fille, parce qu'elle épouse un homme d'affaires de l'époque de Louis XIII, qui va jouer un rôle important. Il ne donne plus que 2800 livres au quatrième fils, et puis les deux dernières dotes, c'est 2200 et 4000 livres. Enfin, ce n'est pas rien. Il a fallu quand même mobiliser 15 000 livres, mais pour revenir à La Fontaine, le trésor de Nicolas de la Cour, il est dans ses papiers. Hein. Et pour l'historien, c'est une bénédiction. Ces papiers, c'était une malédiction pour les paysans de l'époque. Mais creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse, eh bien regardez, le trésor qu'a laissé Nicolas de la Cour, c'est ces 400 documents qui ont été inventoriés après sa mort.
Avec ici cette histoire d'un laboureur au grand siècle, le laboureur, c'est pas rien d'être laboureur, hein. Il a sa charrue à une au moins. Et puis dans cette histoire-là, il y a ce panorama gigantesque que vous dressez, Jean-Marc Morisseau. Et pour l'évoquer, mais de manière beaucoup plus contemporaine à travers les générations, Quentin est avec nous. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Tu as quel âge ?
12 ans.
Quel est le lien avec Jean-Marc Morisseau ?
Jean-Marc Morisseau étant mon grand-père,
ah, ben
du côté
voilà.
De ma mère.
Avec cet arbre généalogique que je vois, c'est quoi cet arbre gigantesque ?
Cet arbre généalogique est l'arbre généalogique de ma famille, du côté de mon grand-père, remontant jusqu'à Nicolas de la Cour, voire même un siècle au-dessus.
Et t'es où toi, là-dessus ?
Je suis tout en bas.
Bon, alors comment ça se passe, les repas en famille ? Il en parle beaucoup, de cette histoire-là ?
Oui, souvent. Ça intéresse quand même pas mal de gens dans la famille.
Bah, j'imagine, c'est quelque chose d'absolument sensationnel. Parce que Jean-Marc Morisseau, moi je vais vous le dire, votre livre, je l'ai lu par l'intérêt de la démarche de l'historien que vous êtes, avec cette recherche des archives, et puis aussi par tout ce qu'on apprend autour de Nicolas Delacour, mais comme cette toile de fond de ce travail généalogique qui nous passionne, tout ce qui nous intéresse, nous avons des noms. Nous avons une date de naissance, une date de décès, au mieux parfois un mariage, et c'est tout. Et vous, vous dressez en fait tout ce qu'il y a derrière.
Ce qui est important, c'est de faire revivre les gens. Même pour l'historien, en dehors de la généalogie, collectionner des inventaires ou bien des exemples impressionnistes avec uniquement un nom, un prénom et puis quelques lignes ou quelques pages me semble très insuffisant. Je voulais ressusciter vraiment la vie, les paroles, les comportements et les relations sociales pour permettre de tout comprendre, y compris la véritable guerre sociale qui a existé à Maffliy dans une trentaine de villages en réaction à l'égard de Nicolas Delacour et de bien d'autres personnages qui montrent que au début de la guerre de 30 ans, il n'y a pas que les croquants, il n'y a pas que les nu-pieds, mais en Île-de-France également, il y a des conflits sociaux extrêmement important, qui montre qu'on passe progressivement du Moyen-Âge à l'époque moderne. Il y a vraiment une sorte de grande fissure qui apparaît, où le capitalisme s'engouffre et où la société s'effrite.
Avec ici ce lieu, Quentin, vous y avez été en famille à Maffliy pour faire une sortie ?
Non, pas encore, mais je pense que papy aimerait vraiment.
Bah oui, et Jean-Marc, va falloir organiser voilà. Ça, emmener exactement. Toute la famille. Et est-ce qu'il est possible, parce que Delacour, c'est un nom en Île-de-France courant, et au-delà de l'Île-de-France parce que les gens se déplacent, d'imaginer une réunion. Vous avez dit combien de descendants vous en avez contacté ?
Il y en a des milliers. Et, le livre a fait l'objet d'un lancement sur Maffliy, la commune voisine de Montsou. Il y avait une trentaine de mes cousins, entre guillemets mes cousins, parce que mon itinéraire d'historien est tout à fait étonnant. Je me suis retrouvé cousin de dizaines de personnes que j'avais fréquentées depuis 30 ou 40 ans dans le cadre de mes recherches, puisque la plupart des descendants des agriculteurs du bassin parisien peuvent avoir une ascendance liée à Nicolas Delacour.
Donc vous avez mis les arbres généalogiques qui sont pas complets parce que c'est pas possible de mettre un arbre généalogique complet. Il y a les arbres généalogiques qui nous aident à parcourir Nicolas Delacour, votre ouvrage. Mais sinon, on n'en finit pas avec les fratries.
Bien sûr, mais ce qui est important, j'ai voulu singulariser par l'index ces trois tableaux généalogiques, simplement, les relations sociales au village et comment Nicolas Delacour était arrivé dans ses positions de domination, comment il l'avait conservé également, et je l'ai suivi pendant une ou deux générations encore après lui, avec des destins fabuleux, hein, dans tous les sens, jusqu'au comte de Perrault, puisque la noirceur du personnage est restée auprès d'une de ses filles, qui a été véritablement terrible à l'égard de sa propre belle-fille. J'ai l'impression de voir Cendrillon, hein, qui est là, avec sa belle-mère, au sein des Delacour.
Voilà, alors qu'il y a des grands-pères qui lisent les contes de Perrault à leurs petits-enfants. Quentin, ton grand-père te lit ton histoire familiale. Voilà, bah à toi maintenant de prendre la relève, historien du monde rural, pourquoi pas en tout cas. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Et Jean-Marc Morisseau, merci vivement. Nicolas Delacour, Le pouvoir au village au cœur du XVIIe siècle, c'est publié chez Talendier. Merci beaucoup.
Merci.
Et dans le cours de l'histoire, prochain épisode, au temps des notables, le maire au centre du village et au cœur de nos vies.
Levez-vous, je vous prie. Consentez-vous à prendre pour épouse?
Miaou.
Qu'est-ce qui a fait le chat?
Il ne fait pas le chat, monsieur le maire. C'est son nom.
Consentez-vous à faire miaou, à prendre miaou pour épouse?
Je ne discuterai pas, monsieur. Les conditions inaccoutumées dans lesquelles nous nous trouvons.
Voulez-vous répondre ou non?
Je réponds oui, bien entendu.
Si vous voulez bien signer, monsieur, madame, et les témoins.
Ils étaient 9 célibataires, le film de Sacha Guitry, pour terminer le cours de l'histoire sur France Culture. Cette émission préparée par Maëlle Vincent Randonnier, Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizou, ainsi que Chloé Rouillon. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.